déclencheur.
Duo. Bienvenue, bienvenue pour ce déclencheur duo. On revient dans cette émission sur le lancement de DxO Optix Pro 6. Depuis le début de déclencheur, depuis 2006, donc, je vous invite à travailler en RAW pour différentes raisons. Et une de ces raisons, c'est de pouvoir reprendre vos fichiers RAW et profiter des améliorations des nouveaux logiciels. Et je crois que DxO Optix Pro 6 illustre cela parfaitement, puisque un des axes de travail de cette nouvelle version, c'est la réduction du brouillard à haute sensibilité, un des aspects sur lesquels les nouveaux boîtiers innovent énormément en ce moment. Bien, ce que le RAW vous permet, c'est reprendre vos anciens fichiers, qui étaient peut-être bruités, les redévelopper et profiter de toutes ces améliorations immédiatement. Ce qui évidemment n'aurait pas été possible en JPEG.
Cyril, bonjour.
Bonjour.
Donc Cyril Delachenet, tu es directeur sales marketing chez DxO.
Absolument.
Et aujourd'hui, DxO annonce
le lancement de DxO Optix Pro version 6.
Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui change par rapport à la 5?
Alors, on a beaucoup travaillé sur cette version. Le slogan est « Repousser les limites de votre boîtier ». En particulier, repousser les limites ISO. On a enrichi et on a beaucoup travaillé sur l'aspect des mises au noir et de la suppression du bruit basse fréquence en fort ISO, ce qui donne des images extrêmement nettes, extrêmement saturées, même à des ISO très élevés comme 25 000, comme on peut les rencontrer aujourd'hui sur les réflexes les plus avancés.
Bruit basse fréquence, ça veut dire quoi?
Alors, le bruit basse fréquence, c'est en fait toutes les tâches qui occupent quelques dizaines, voire quelques centaines de pixels. En général, c'est de couleur rouge ou bleue, et c'est très visible dans les basses lumières, et aussi extrêmement désagréable, en particulier sur les teintes chères, sur la peau, on le voit immédiatement sur la peau. Donc aujourd'hui, en fait, tu peux aller un stop plus haut que ce à quoi tu es habitué. Donc si tu es habitué à faire des images à 6004, eh bien en fait, tu vas pouvoir pousser ton boîtier à 12000 et retrouver une qualité d'image équivalente à ce que tu avais avant en 6004.
Pour être très clair, ça veut dire que mon boîtier, je le mets à 6004, on va dire que c'est sa limite. C'est par logiciel que je vais pouvoir en fait jouer sur l'exposition pour corriger, ou c'est
alors,
sur le
en fait,
boîtier que je fais ça?
Il y a deux dimensions à cette question. En imaginant que le boîtier aille par exemple jusqu'à 12000, que tu étais habitué à shooter à 6004, donc tu vas pouvoir aller à 12000 par le moyen que je viens d'indiquer, c'est-à-dire tout simplement en utilisant un ISO plus élevé, puisque DxO sera capable de gérer le bruit de façon beaucoup plus efficace que les convertisseurs concurrents. Donc ça, c'est un premier point. Si on extrapole cette idée, ça veut dire aussi qu'on peut aller au-delà de l'ISO max du boîtier. Ça veut dire que si le boîtier est limité à 6004, eh bien on va pouvoir se positionner à moins 1 ou moins 2 EV, et ensuite, par logiciel dans DxO Optix Pro, repasser à plus 1 ou plus 2 EV, ce qui va en fait augmenter la sensibilité max du boîtier. Donc on va passer de 6004 en fait à 12000 voire 25000 ISO.
D'accord. Ça marche aussi avec mon compact, parce que globalement le reflex, je suis pas mécontent, mais c'est sur le compact que j'ai beaucoup.
Alors,
de problèmes.
Alors ça marche sur tous les fichiers RAW. Cette manipulation fonctionne qu'en RAW. Donc tous les
j'ai un compact expert qui fait du RAW.
Voilà, tous les compacts experts supportés par DxO peuvent bénéficier de ce entre guillemets extension d'ISO apportée par DxO.
D'accord, donc l'ISO, c'est clairement le gros côté de l'annonce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors le deuxième sujet, on a beaucoup retravaillé sur l'interface. On s'est aperçu qu'un certain nombre de nos utilisateurs avaient un petit peu de mal à prendre le logiciel en main, qui est, il faut le reconnaître, un logiciel assez particulier, atypique je dirais même. Donc ça nécessite un peu un effort de le prendre en main. Et là, on a beaucoup retravaillé cet aspect-là pour simplifier cette prise en main. Les photographes ont besoin d'outils qui soient simples, sans rentrer dans toute la complexité d'outils comme Photoshop par exemple, qui sont très puissants si on a besoin de traiter une image, mais qui sont aussi extrêmement manuels. C'est-à-dire que j'entendais récemment un photographe pro qui me disait « Bon, mais avec Photoshop, effectivement, je peux parfois passer une heure et demie par image dans DxO, j'obtiens des résultats équivalents, sauf qu'en une heure et demie, j'ai traité 200 images. »
Et on a des problèmes de volume maintenant, voilà. En fait, avec le numérique, quand on
absolument
fait beaucoup de photos, on a des problèmes de volume.
L'autre chose, c'est que beaucoup de photographes sont de plus en plus sensibilisés aux bénéfices du format RAW, mm-hmm, et hésitent à franchir le pas à cause de la complexité du traitement de ces fichiers RAW sur l'ordinateur en post-production. On souhaite vraiment établir DxO Optix Pro comme le convertisseur RAW de référence pour ces gens-là, qui leur permet réellement, en deux clics de souris, de convertir leurs fichiers RAW. Nous prenons en charge toute la complexité de la conversion RAW et des réglages qui sont faits automatiquement. On n'oublie pas pour autant les experts et les pros à qui le logiciel s'adresse, et on a considérablement enrichi toutes les possibilités de personnalisation de l'interface avec personnalisation de l'espace de travail, et chacun va pouvoir configurer le logiciel comme il le souhaite.
Gestion des deux écrans.
Gestion des deux écrans, affichage des fonctions avancées selon le souhait. On a aussi considérablement simplifié l'installation. Toute la complexité concernant l'installation des modules de correction, qui est vraiment la spécificité de DxOptics Pro et qui permet d'assurer une correction automatique de très haute qualité des images. Toute cette sélection de modules se fait en fait depuis l'application. À chaque fois que tu fais glisser une image dans DxOptics Pro, le logiciel reconnaît qu'il est nécessaire de charger un module et te propose de le télécharger. Et puis, le troisième point concerne l'extension des boîtiers supportés. On est très heureux d'accueillir la famille Olympus. Donc, dans cette version, on aura 8 boîtiers Olympus, en plus de 2 boîtiers Sony et de 2 boîtiers Nikon, dont le...
D'accord, mais ça, de toute façon, ça voilà. Évolue au fil du
Absolument.
Temps, ce genre de choses. Alors, la question qui fâche toujours avec DxO, la version Mac ?
Alors, la version Mac sera disponible début d'année prochaine.
Sérieux ?
Tout à fait sérieux, oui, absolument. Non, on a aujourd'hui une version Mac qui fonctionne, qui n'est pas tout à fait en état de sortir. Donc, c'est-à-dire qu'on est tout à fait confiant sur le fait qu'on sortira une version Mac très rapidement l'année prochaine et non pas dans 6 mois.
Le marché des rotiseurs, quand on le regarde, s'oriente de plus en plus vers des logiciels spécialisés qui essaient de faire toute la gestion du photographe avec la gestion de la bibliothèque et ce genre de choses. Ce n'est pas ce que vous introduisez dans la version 6. Vous avez des plans par rapport à ça ?
Alors,
ou l'idée reste de s'interfacer avec Lightroom ou d'autres produits ?
L'objectif très clair de DxOptics Pro, c'est d'être vu comme un complément de Lightroom. Nous n'avons pas l'intention de débarquer sur ce marché des logiciels qui permettent de classer, d'organiser les photos. Ce n'est pas notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est vraiment le traitement d'image, c'est l'excellence en traitement d'image et en qualité d'image. Donc c'est ce sur quoi on se concentre. Et d'ailleurs, on le prouve avec en particulier toutes ces fonctionnalités de conversion RAW et de suppression de bruit. Et donc, on se voit réellement comme complémentaire de Lightroom ou avec les logiciels du genre qui permettent de faire le catalogage.
Ok, très bien. Eh bien, beaucoup de succès avec cette nouvelle version.
Merci beaucoup, Benoît. À très bientôt.
On l'a compris, un des points forts de DxO, ce sont justement ces modules qui caractérisent les boîtiers, qui caractérisent les objectifs et qui lui permettent d'appliquer automatiquement le traitement le plus adapté. Mais comment font-ils chez DxO pour caractériser les boîtiers, pour caractériser les objectifs ? Eh bien, DxO nous a invités à visiter son laboratoire et on écoute un extrait de cette visite, quelques explications avec Nicolas Touchard. Notez que si DxOptics Pro 6 vous intéresse, vous trouverez beaucoup d'informations sur cette nouvelle version sur quelques-uns des sites de l'Agora du Net. Vous y trouverez un test, des photos de ce fameux laboratoire qu'on s'apprête à visiter, etc. Tous les liens vers ces contenus complémentaires sont bien sûr sur www.déclencheur.com. Mais en attendant, retrouvons Nicolas Touchard.
Donc ce labo contient à peu près tous les éléments que l'on a aujourd'hui pour faire les caractérisations d'optique et d'appareils photo. Il y a plusieurs stations, ce que j'appelle des stations de mesure. Ici, c'est toute la partie mesure optique et MTF sur des mirrors de réflexion. Oui, petit détail avant, évidemment, comme tout labo optique, c'est noir. Donc les surfaces sont peintes avec une peinture dont on a même mesuré la neutralité. Et la moquette est anti-réflexion. Enfin, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de réflexion parasite. Alors ici, donc au fond, vous avez des mirrors. On a une quinzaine de mirrors de tailles différentes, avec des petits carrés, des grands carrés, pour pouvoir faire des mesures sous toutes sortes d'optiques. Et on fait également des mesures à des différentes distances, puisque les aberrations des optiques, évidemment, varient en fonction de la distance de prise de vue. On a possibilité d'éclairer avec des sources tungstène ou des sources lumière du jour, en fonction de la caractérisation qu'on veut faire. Alors avec ça, donc, on fait des mesures de MTF, des mesures de rehaussement des bords. On fait aussi des mesures d'aberration chromatique longitudinale. Donc le principe de notre solution, c'est sur une mire de faire le maximum de mesures, d'extraire le maximum d'informations. On va caractériser le flou, on va caractériser l'aberration chromatique, on va caractériser en regardant la géométrie des points la distorsion, on va caractériser également le vignetting en faisant abstraction des points, on regarde la variation d'éclairement dans le champ. Ici, on a d'autres stations qui vont permettre plutôt ici de caractériser le capteur. C'est une mire en fait qui présente une progression d'éclairement sur une dynamique de 4 en densité pour pouvoir mesurer aussi bien tout ce qui est contraste, dynamique que bruit. Donc on fait une prise de vue là typiquement de cette mire en cadrant correctement. On va aller mesurer les réponses du capteur à chacun de ces niveaux de lumière et tracer les courbes de réponse signal-bruit, la dynamique, la plage tonale et également analyser plus finement les bruits structurés des capteurs, s'il y a des bruits de ligne, des bruits de colonne. Sur un autre domaine. Ça fait partie des mesures qui sont reportées sur notre site dxomark.com. Ici, on a une boîte à lumière avec deux sources disposées à 45 degrés à peu près. Et là, on peut caractériser principalement la couleur. C'est en plus une boîte très pratique parce qu'on peut faire varier les températures de couleur, l'intensité, donc faire des mesures soit colorimétriques, soit optiques, dans une grande plage de conditions. Donc la plupart des métriques et des mesures qu'on met en œuvre recommandent les standards qui existent. Par contre, il y a des mesures sur lesquelles il n'y a pas de standard. Et là, je terminerai justement sur cette boîte-là qui va nous permettre de mesurer la sensibilité spectrale. Alors là, on a mis ça au point parce que, en fait, justement, il n'y avait pas vraiment de méthode simple. Et après, on va analyser toutes les prises de vue et donc on aura une réponse pour chacune des longueurs d'onde. Ça va nous permettre de tracer ce qu'on appelle la réponse spectrale ou la sensibilité spectrale en rouge, en vert et en bleu du capteur. On peut en particulier mesurer la fidélité couleur. Ce qui ne veut pas dire que, in fine, un constructeur ou un logiciel de traitement d'image reproduira la couleur fidèle. Mais si on veut travailler sur les couleurs d'une scène, soit pour faire des effets créatifs ou soit pour rendre une scène correctement, il est quand même préférable d'avoir la couleur originale quelque part. Et si on n'a pas la sensibilité spectrale et qu'on utilise juste des mires comme ça, on n'a pas une information suffisamment précise pour revenir dans l'espace colorimétrique de la scène photographiée, quoi.